Vous êtes sur l'espace Keolacom. C'est Shinta qui vous parle. Merci d'être là. Dans la première partie de mon histoire, j'ai raconté mes débuts dans la vie, comment et par qui j'ai été formatée. J'avais dès lors 28 ans et je prenais conscience de ce que je ne m'appartenais plus vraiment. J'étais devenue un assemblage hétéroclite de personnalités, de modèles repris des parents, de la fratrie, des enseignants, des amis et des centaines de personnages de romans que j'avais lus. C'est le prix à payer pour un master en lettres. À force de s'identifier aux personnages fictifs de mes lectures, de trembler d'émotion pour eux, d'applaudir leur réussite, je ne savais plus qui j'étais. Je fonctionnais dans la vie, je donnais mes cours, je corrigeais les épreuves des élèves, mais je vivais en quelque sorte à l'extérieur de moi-même, comme suspendu sur la courbe d'un grand point d'interrogation. D'une part, l'intellect pour enseigner et d'autre part, le corps pour faire les choses. Quant aux émotions, elles étaient enfouies si profondément derrière une sorte de brouillard compact que rien ne pouvait remonter à la surface. J'étais devenue une handicapée émotionnelle et la communication avec les autres était difficile. Pourtant, j'avais des amitiés. Et en me replongeant dans qui j'étais au seuil de la trentaine, toute perdue que j'ai été, je réalise que jamais ma source de vie ne s'était vraiment tarie. J'avais beau errer dans le brouillard, quelqu'un qui n'était ni le mental, ni l'émotionnel, ni une autorité extérieure, veillait. En moi? Sur moi? Avec les mots dont je dispose maintenant, je dirais que c'était un jaillissement de l'essence, une éruption de la conscience, qui m'indiquait la bonne direction lors de moments clés. Mes trêves d'élan philosophico-mystique. C'est ainsi qu'un beau matin, alors que je m'apprêtais à ouvrir la porte de la salle de classe où je devais donner un cours d'histoire, dans le gai brouhaha des élèves 14-15 ans, clé en main, j'ai été saisi d'une épiphanie. C'est quoi une épiphanie ? Eh bien, dans le dictionnaire, c'est la manifestation d'une réalité cachée. Et dans ma réalité de ce matin-là d'avril 1980, c'était un éclair de conscience, une évidence, un absolu point de non-retour. Une voix intérieure disait « Ma vie ne peut pas se résumer à un tableau noir et à l'odeur de la craie. Il y a autre chose dans la vie. » J'ai donné le cours, mais ma décision était prise. Je suis allée voir le directeur et je lui ai demandé une année sabbatique qu'il m'a refusée parce que je n'avais pas encore travaillé assez longtemps. Qu'à cela ne tienne, je sentais que si je ne me rendais pas en Inde à l'ashram d'Osho dans les plus brefs délais, pour un temps indéfini, j'allais rater un embranchement décisif sur mon chemin. J'ai terminé l'année scolaire, résilié mon bail, vendu mes livres et mes disques sur la place du marché de la Riponne. C'est toujours ça de prix comme argent de poche. J'ai tout liquidé jusqu'à quelques fringues pour le voyage et quelques documents officiels que j'ai entreposés chez mes parents, avec le piano. À mes parents, j'ai raconté que je me rendais à Munich pour perfectionner mon allemand. C'est dire à quel point ils me terrorisaient encore. Parti donc en catimini, après une retraite vipassana d'une semaine à Arila sur l'île grecque de Corfou, j'ai déposé mon sac à dos devant le magnifique portique en bois aux ferrures dorées de l'ashram de Bhagwan Sri Rajneesh, au numéro 17 de Corrigan Park à Pune, Maharashtra, Inde, le 1er octobre 1980. Il était 18h et c'est en toute sérénité que j'ai attendu la fin de la méditation Kundalini. Quand le garde dans sa robe couleur bordeaux a repoussé les battements du portail, c'est un fleuve joyeux de sannyasins, eux aussi vêtus de bordeaux, qui s'est déversé sur la route. Mon ami Razo était là. Quel bonheur de pouvoir se serrer dans les bras aux portes du paradis. Je vous raconte pourquoi c'était bien un paradis qui se trouvait derrière cette porte dans un podcast de la série Osho. Venez m'écouter. Pour Pour l'heure, je dirais que le lieu empreint de la spiritualité millénaire de l'Inde, le Sangha, c'est-à-dire la communauté des personnes qui sont venues du monde entier pour méditer et s'éveiller en présence du Maître, ont opéré sur moi une immense libération. Mais c'est la présence et l'enseignement de Bhagwan Osho qui ont véritablement libéré mon essence et m'ont ramené à mon intégrité. Mes activités, méditation dynamique et contemplative, méditation active au travail, atelier de développement personnel, respiration, tantra, Sufi dance, formation en tai chi, Tibetan pulsing healing, PNL, hypnose ericksonienne, école de mysticisme, parler à son corps, entre autres. Mais surtout, m'asseoir en présence d'Osho pendant 1 à 2 heures tous les jours, écouter sa voix, recevoir son enseignement et se détendre. Lâcher. Lâcher prise et peler l'oignon du conditionnement, couche par couche, pour libérer le joyau intérieur, la source vive d'amour et de joie. Quel bonheur! On faisait tout et n'importe quoi pour ne pas manquer un seul de ses discours, tellement c'était délicieux et merveilleux. 2 à 3 000 personnes assises en silence en profonde méditation, on aurait entendu une mouche voler. L'ashram d'Osho a attiré des personnes du monde entier, de toutes les couches de la société, dont beaucoup d'universitaires. Il faut dire qu'Osho était professeur ordinaire de philosophie à l'université de Jabalpur avant de se consacrer entièrement à son ashram. Mais cerise sur le gâteau, l'ashram regorgeait d'excellents musiciens professionnels qui ont composé la musique des méditations et nous ont fait danser et danser encore jusqu'à ce que le danseur disparaisse dans la danse. À l'ashram, on pratiquait les arts martiaux, la peinture, quantité de méthodes de développement personnel et spirituel. Les résidents faisaient de la working meditation, la cuisine, le nettoyage, l'administration, l'organisation des événements. On pouvait apprendre l'art des jardins zen ou la construction de maisons. Bref, vous aurez compris que j'ai beaucoup à vous raconter. Rendez-vous sur les podcasts de la série Osho! Le 29 octobre 1980, j'ai été ce qu'on appelle initié par Osho. J'ai reçu une transmission d'énergie, un mala et un nom. Après m'avoir scanné un petit moment, il a prononcé mon nom Mavichinta et expliqué qu'en sanskrit, cela signifiait au-delà du passé. Eh bien, avec tout le karma que j'avais accumulé dans cette vie et probablement dans mes vies précédentes, le meilleur conseil qu'il pouvait me donner était bel et bien de m'en libérer. Mais au-delà du passé, c'est où? Pas dans le futur, dans tous les cas. Et comment y parvenir, dans ce ici et maintenant? Je suis restée encore 4 mois à l'ashram, puis comme Osho avait quitté l'ashram pour s'installer aux États-Unis, il n'y avait plus vraiment de raison d'y rester. J'en ai profité pour faire un peu de tourisme avec une amie. Nous avons visité le Taj Mahal, Benares, Delhi, Katmandou, et puis nous sommes rentrés en Suisse. Comment je me suis sentie en débarquant à Genève? Comme dans un réfrigérateur. J'étais frappée par le vide des rues, l'absence de bruit et de queue devant les négoces. L'absence de foule et de brouhaha m'avait vraiment choquée. En Suisse, tout est si propre, si net, mais en même temps, c'est terne et figé. Quel contraste avec le fourmillement humain, le tintamarre des klaxons, la pollution, mais aussi les odeurs d'épices et de moussons, les saris polychromes des femmes si gracieuses dans leur dignité, l'irrésistible foisonnement de la pulsion de vie qui m'avait enchantée là-bas, dans le tiers-monde. De retour au frigidaire, donc, sur les bords du Léman, j'ai trouvé un poste rapidement et enseigné pendant 8 ans au collège secondaire de Nyon, avec le plus grand des bonheurs. Le séjour en Inde m'avait tellement nourri, j'étais revenue bourrée d'enthousiasme et j'étais devenue même un brin solaire. J'étais co-responsable du centre de méditation Almasta à Genève, ce qui me permettait de m'échapper certains soirs et le week-end de l'austérité scolaire. Ainsi, je pouvais poursuivre l'exploration de mon intériorité et partager les fruits de la méditation avec mes collègues, mes élèves, mais surtout avec l'homme de ma vie. Eh oui. Cette rencontre est survenue très vite après mon retour en Suisse, lors de la fabuleuse pleine lune de mai, qui est dans la tradition bouddhiste, et je cite l'intelligence artificielle, la pleine lune de Bouddha, qui fait référence au Vesak, la fête bouddhiste la plus sacrée célébrant la naissance, l'illumination et la mort de Gautama Bouddha. Selon la tradition, elles auraient toutes eu lieu le même jour de pleine lune du mois de Vaishakha. La pleine lune symbolise l'esprit éclairé du Bouddha, complet et plein de lumière, et ce jour est un moment important pour les pratiques spirituelles telles que la méditation et l'aumône. Quand j'ai aperçu Visarjana pour la première fois, un sannyasin inconnu tout juste débarqué de Suisse allemande, vêtu de rouge avec un mala autour du cou, je lui ai dit le plus naturellement du monde. « Ah, te voilà, toi !» Comme si nous nous connaissions depuis toujours. Nos bouddhas intérieurs s'étaient reconnus. Nous avons vécu quelque temps ensemble avec des couples d'amis sannyasines, puis nous nous sommes installés tous les deux à Lausanne. Lui, concepteur rédacteur en publicité, divorcé avec 3 enfants en bas âge, moi, enseignante sans enfants. Nous étions tous les deux des amoureux d'Osho, engagés dans une même quête spirituelle. Je ne répéterai jamais assez à quel point il est important pour l'épanouissement du couple que les partenaires partagent une même vision. Anand Visarjana signifie en sanskrit « totalement dissous dans la béatitude ». Quand notre relation s'est stabilisée, nous nous sommes promis de nous soutenir mutuellement dans notre réalisation spirituelle, sans jamais enfreindre la liberté de l'autre. Les années ont passé, nous avons vécu ensemble et libres. Un jour, Visarjana m'a invité à participer à une formation Reiki à Zurich. Ce fut un merveilleux week-end en amoureux, au cours duquel nous nous sommes chamaillés comme jamais, mais la graine du Reiki était semée, elle allait germer, fleurir, s'épanouir et donner une abondance de fruits. Très vite, le Usui Shikiryoho, la méthode Usui de guérison par le Reiki, est devenue pour moi une pratique quotidienne. C'est une méthode d'origine japonaise qui consiste à poser les mains sur soi ou sur une autre personne en invoquant le Reiki dans un esprit de méditation. Rei, l'essence universelle, et Ki, l'énergie vitale, Reiki. Reiki parle donc de l'association entre l'essence spirituelle ou la dimension lumineuse de la conscience et le corps physique. Cette méthode est vraiment faite pour moi. Je peux être en méditation tout en étant en contact physique par les mains avec moi-même ou une autre personne. Le Reiki harmonise et restaure nos ressources. Et en revenant de l'école, avant toute chose, je consacrais une demi-heure à me donner un auto-traitement Reiki. Cela permet d'évacuer le stress physique et mental, les énergies sont régénérées et le champ de conscience s'élargit. Les événements de la journée se déroulent devant notre vision intérieure. Elles sont évaluées et digérées. On ressort d'un auto-reiki merveilleusement détendu, frais pour de nouvelles activités, l'esprit clair. 3 ans plus tard, j'avais écrit le premier livre en français sur le reiki, publié chez Recto Verso 30 000 exemplaires, et j'étais maître en reiki. Au début, je me suis sentie déchirée entre le monde d'Osho et celui du reiki, car comme me l'a suggéré un ami, Osho est l'océan, et le Reiki, une petite mer intérieure. Puis, lors d'un des derniers discours d'Osho, alors que nous savions qu'il allait bientôt quitter son corps et que je me demandais avec inquiétude comment j'allais pouvoir poursuivre mon chemin spirituel sans lui, j'ai été saisie d'une nouvelle épiphanie. J'ai réalisé qu'en fait, Osho faisait ce qu'on fait en Reiki, mais en 1000 fois plus grand. C'est-à-dire connecter et transmettre l'essence universelle de vie pour un éveil de la conscience, pour davantage de bonheur, de bien-être et pour la réalisation de soi. Alléluia ! Je disposais d'un outil qui allait me permettre de poursuivre sur la voie initiée par Osho. Merci à l'existence. Tout est vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dès le départ, mes séminaires étaient affichés complets avec une vingtaine de participants et tout naturellement, ma carrière d'enseignante a pris une nouvelle orientation. Dès lors, je pouvais partager avec des adultes une expérience plus large que dans l'institution et au lieu de transmettre des connaissances dans un cadre limité, je pouvais transmettre une dimension spirituelle et une expérience personnelle. À la même époque, Visarjana est également devenu maître Reiki et pour tous les deux a débuté une intense et fabuleuse période d'enseignement du Reiki dans les grandes villes de francophonie, en Suisse romande, en France, à Bruxelles et même en Roumanie et au Gabon. C'est ainsi qu'est né le centre Reiki. Les week-ends étaient consacrés aux initiations Reiki. La semaine, je donnais des soins Reiki et m'occupais de l'administration du centre, tandis que Visarjana poursuivait son activité de publicitaire. C'était intense, comme vous pouvez l'imaginer. 7 jours sur 7, des heures de train, des montagnes d'énergie à harmoniser, mais nous nous sentions honorés et infiniment choyés par l'existence. Avec nos organisateurs et nos participants, nous avons construit des relations d'amitié et de compagnonnage spirituel pour lesquelles nous leur sommes reconnaissants du fond du cœur. En tout, nous avons formé environ 5000 personnes au Reiki, dont une douzaine de maîtres enseignants et quelques enfants. Pour la plupart, le Reiki est entré définitivement dans leur vie, pas forcément professionnellement, mais comme soutien au quotidien pour eux-mêmes et leur famille, dans les moments difficiles, pour leur santé et comme discipline spirituelle. Dans les décennies qui ont suivi, la méthode du Reiki s'est rapidement répandue dans le monde entier, et même si de nos jours la méthode et son nom sont souvent galvaudés, le Reiki poursuit son petit bonhomme de chemin et se pointe de plus en plus fréquemment dans les hôpitaux. En 1995, tour du monde. Première étape, Mont Kurama près de Kyoto au Japon sur les traces de Mikao Usui, le fondateur de la méthode Reiki. Deuxième étape, Big Island sur l'archipel de Hawaï et avant de rentrer, une semaine à Whistler Mountain au Canada pour un congrès mondial de The Reiki Alliance. Le Japon nous a éblouis et notre initiation au chamanisme hawaïen par Kahilio Opua a scellé une magnifique nouvelle étape dans notre vie affective et professionnelle. Merveilleuse Pua! Elle nous a accueillis dans sa famille, mariés sur le volcan Kilauea selon le rituel traditionnel hawaïen et donné des noms hawaïens. Visarjana est devenue Keola Mauloa Okalani, un nom qui fait écho aux harmonies célestes et à l'amour profond et infini qui transcende les limites terrestres. Eh bien, quant à moi, je suis devenue Keola Laulani et cela signifie « fleur céleste ». Le début de nos deux noms est identique. Il parle de dimension céleste et tout naturellement, lorsque nous nous sommes installés dans notre maison sur les hauts du vignoble de Lavaux, notre centre Reiki est devenu l'espace Keola. Plus ouvert, définitivement tourné vers le ciel et l'immense bassin lémanique. Notre offre de séminaire s'est enrichie. À la méditation et au Reiki sont venus s'ajouter le massage Lomi-Lomi, le chamanisme hawaïen, et peu après, mon activité avec Orasoma a pris de l'ampleur. J'étais mûre dorénavant pour enseigner ce système de soins par l'énergie de la couleur, des plantes et des cristaux que j'avais découvert quelques années auparavant. Avec Orasoma, j'ajoutais une corde à mon arc. Le métalangage de ces flacons de couleurs me permettait de mettre des mots sur les différentes qualités des énergies subtiles et de leurs répercussions sur la psychophysiologie. Mes patients en ont beaucoup profité. Pour le plaisir d'en savoir plus, notamment sur la jonction entre le Reiki et Hawaï et la méthode Orasoma, retrouvons-nous sur les podcasts de keola.com, qui leur sont consacrés. Quant à cette seconde partie de mon histoire, elle se termine ici. Avec l'achat de notre propriété de 14 000 m² de terrain agricole dans les hauts du Lavaux et notre mariage civil, la phase d'expansion que nous venions de vivre s'est inversée. En relevant notre boîte aux lettres pour la première fois, j'ai curieusement entendu la voix de Candide qui, parvenu au bout de son épuisant parcours autour du monde, s'écrie « Oui, tout est bien dans le meilleur des mondes, mais il faut cultiver son jardin. » Je ne voulais pas, comme Voltaire, me retirer des affaires du monde, mais j'étais lasse de tous ces voyages qui dévoraient mon énergie au point que je n'en avais plus pour moi-même. En m'occupant de la maison, du terrain et de mon couple, tout en enseignant et en donnant des soins, je me suis accordé une période de retour à moi-même et j'ai enfin pu faire des racines. À bientôt pour la troisième partie !